no.
Say yes or no. Yes or no.
Dans la question du jour que nous vous posions hier, eh bien, nous vous demandions si, selon vous, le rapprochement entre la Russie et l'Iran était un tournant pour la guerre en Ukraine et à Gaza. Alors, vous êtes 75% à avoir répondu oui sur Instagram. Vous êtes 65% à avoir répondu oui sur Facebook. Et sur X, vous êtes dans la même mouvance. Hein, vous êtes 10% à avoir répondu non. Donc, 90% à avoir répondu oui. On va demander son avis à notre invité, Gérard Vespierre, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour la question du jour. Alors, vous avez entendu la question qu'on a posée à nos auditeurs, vous avez entendu leur réponse. Selon vous, ce renforcement des liens entre la Russie et l'Iran, c'est un tournant pour les deux guerres qui ont lieu des deux côtés de la planète ?
D'abord, il faut être, je crois, très, très, très prudent dans l'utilisation des mots, n'est-ce pas? Parce que il y a une différence entre l'Iran, la Russie et le régime iranien et le régime russe. Si on regarde l'histoire longue, si on regarde l'histoire, je dirais, pratiquement contemporaine, il n'y a jamais eu d'alliance entre l'Empire perse et l'Empire russe. Ils ont toujours été ennemis. Il ne faut pas remonter très très loin du temps du Shah. Donc il y a une quarantaine d'années, l'Iran et l'URSS étaient des adversaires. Et donc pourquoi ? Parce que, en termes de régime, en termes d'alliance, en termes de ressources, n'est-ce pas ? Tous les deux sont des grands producteurs de gaz et de pétrole pour le marché européen. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, c'est une alliance de circonstances, c'est une alliance de régimes autoritaires qui ont un ennemi commun, le grand Satan américain. Et si vous voulez, je tiens à préciser ceci, et il y a au temps du Shah, la production de pétrole de l'URSS et de l'Iran était à peu près équivalente, 5 à 6 millions de barils par jour. Maintenant, la Russie produit 2,5 fois plus de pétrole. Donc, voyez-vous, il y a un intérêt stratégique de l'Empire russe actuel à maintenir l'Iran dans une position faible, parce que tous les deux, bien sûr, veulent fournir le marché européen. Alors, en ce qui concerne maintenant l'actualité, les circonstances de 2025, la situation militaire à Gaza ne peut pas évoluer avec un apport extérieur important. La question du Hamas est une question d'effectifs avant tout et non pas d'armement. Les armements sont encore dans les caches et certainement encore en nombre, mais c'est une question d'effectifs. Donc je ne crois pas du tout à un impact même sur d'autres éléments de l'alliance. Il y a beaucoup de communication, mais la réalité est en fait très faible.
Que recherchent ces deux pays ? C'est seul contre tous et principalement contre le grand Satan américain, comme vous l'avez appelé, et par répercussion son allié historique Israël ?
Absolument. Et il faut bien imaginer que si dans les prochaines semaines, les prochains mois ou dans les toutes prochaines années, il y avait à nouveau des soulèvements en Iran et que le pouvoir iranien vacille, là, voyez-vous, c'est un des éléments du triangle Pékin, Moscou, Téhéran qui tombe. Donc c'est vraiment pour eux, excusez-moi, la solidarité des régimes est nécessaire par rapport à l'alliance des démocraties auxquelles ils sont confrontés.
Oui, on l'a vu, hein, c'est Vladimir Poutine, hein, lors de cette réunion avec Massoud Pezeshkian, le président iranien. Les deux hommes ont conclu des accords de défense, ont conclu des accords économiques. Ils ont vraiment resserré leurs liens. Aujourd'hui, on a plus l'impression, Gérard Vespierre, dites-moi si je me trompe, on a plus l'impression que c'est l'Iran qui vient en aide à la Russie, notamment via la livraison de drones. Drone Shahed pour mener la guerre d'agression vis-à-vis de l'Ukraine.
Alors, je pense que tout ce que vous venez d'évoquer a eu lieu devant des caméras, n'est-ce pas ? Nous sommes dans un théâtre, nous sommes dans une stratégie de communication, de faire croire que des empires faibles sont forts. Quelle est la position mondiale de la Russie actuellement sur le plan économique? Quelle est la position mondiale de la Russie sur le plan militaire? Elle qui, de 145 millions, avec ses 145 millions d'habitants, de citoyens, n'a pas pu conquérir plus de 15% de l'Ukraine. Parce que, il faut enlever la Crimée. Donc voilà, qui était déjà dans leur giron. Donc, voyez-vous, on a affaire à des situations très faibles. Et la situation de l'Iran depuis un an et demi, avec la chute du Hamas, avec la chute du Hezbollah, avec la chute du Bachar el-Assad, avec les difficultés des Houthis et les difficultés intérieures, on voit bien qu'on est dans une situation d'empire faible. Donc, ce sont des faibles qui se réunissent devant des caméras, mais ça, ça n'a jamais fait une stratégie en sens militaire du terme et en sens économique. Les drones Shahed n'ont pas été une révolution sur le front ukrainien. Ils ont certes aidé à maintenir des positions ou à faire des, bien sûr, des bombardements, détruire du matériel, détruire des postes de commandement, etc., etc. Sur le sol ukrainien, mais ça n'a pas été un renversement de la guerre.
Rebondissons sur de l'actualité vraiment très chaude. Hein. Ce week-end devrait avoir lieu des négociations entre États-Unis et Iran au sujet du nucléaire iranien. La Chine, la Russie et l'Iran, le triangle dont vous parliez, hein, Moscou, Pékin, Téhéran, ont rencontré conjointement l'Agence internationale de l'énergie atomique pour discuter de ce programme nucléaire iranien. Pensez-vous, êtes-vous optimiste vis-à-vis du fait que ces négociations puissent aboutir prochainement et que le nucléaire iranien n'aboutisse pas?
Je pense que effectivement l'Iran a besoin de desserrer l'étreinte économique. Donc le programme nucléaire militaire sera peut-être passé à la trappe. C'est une éventualité. Je crois qu'il faut être très très prudent. Moi, ce qui me soucie, ce qui attire mon regard, c'est qu'on parle du programme nucléaire militaire iranien depuis l'an 2000, 2002 exactement. Donc, voyez-vous, en 23 ans, l'Iran n'est pas parvenu à établir ce programme-là réellement, à acquérir la bombe. Donc, est-ce que c'est une réalité? Ou c'est un dossier de papier destiné à maintenir l'Iran dans la cour des grands, à lui donner une aura régionale. Je ne sais pas, donc je vais être très prudent, mais je pense que s'il y a un sacrifice à faire, eh bien, du côté iranien, pour desserrer les taux économiques qui risquent de renverser le régime, excusez-moi, eh bien, dans ces cas-là, il pourrait y avoir des accords.
Et pour terminer, Gérard Vespierre, suite à votre réponse, quelles conséquences pour Israël?
Eh bien, écoutez, si effectivement il n'y a pas de chemin militaire de l'Iran vers le nucléaire, cela, c'est une réassurance fondamentale pour Israël. Mais ce qu'il faut bien voir actuellement dans la situation régionale, c'est la chute les uns après les autres de tous les alliés et proxys extérieur de l'Iran. Maintenant, les Houthis sont les derniers. Je pense que la situation va devenir de plus en plus difficile pour cette partie du Yémen, 25% seulement du territoire où les Houthis sont présents. Donc, il risque d'y avoir là aussi des évolutions vers le bas. Donc, l'Iran apparaît de plus en plus nu à l'extérieur. Et si jamais il devait se défaire de son programme nucléaire militaire, eh bien, voyez-vous, c'est aussi une perte importante de son poids politique et stratégique.
Et nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Gérard Vespierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir. Oh, yes, oh, no.